おかしいおかしい
C'est l'heure de l'émission de l'auberge congolais avec Alain Héron.
Bonsoir. Un seul thème dans cette émission, Assemblée nationale, examen du projet de loi relatif à la réforme des forces armées de la République. Quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi? Comment concrétiser cette réforme de l'armée congolaise? Trois invités participent à cet échange et sont tous en ligne. Mohamed Boulé, député national MLC et rapporteur de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Il est général à la retraite et ancien vice-ministre de la Défense. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Gaston Moussemena, député national PPRD. Il est également en ligne. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Professeur Bob Kabamba, professeur enseignant à l'Université de Liège en Belgique et directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778. Ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées est jugé recevable par l'Assemblée nationale. Le projet est envoyé dans la Commission Défense et Sécurité pour examen approfondi. Ce, après le débat général et la réplique du ministre de la Défense aux préoccupations des députés, notamment sur la structure des forces armées, la durée de la mise en œuvre de la réforme et du coût de cette opération. Nous recevons dans ce studio Marie-Chantal Lumba, envoyée spéciale de Radio Okapi au Parlement. Dites-nous, Marie-Chantal, quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi?
Il faudrait dire à Alain Héron, d'abord dans son exposé, le ministre Mwando Simba a porté un diagnostic sévère de l'armée, le manque d'une politique claire et ordonnée d'acquisition, de gestion et de maintenance des équipements, avec pour conséquence, les forces armées disposent de matériels insuffisants, vétustes, obsolètes et très souvent inadéquats. Les infrastructures militaires de base sont insuffisantes et délabrées, parfois même inexistantes dans certains endroits. Le ministre de la Défense ajoute que le personnel est non seulement majoritairement vieilli, mais présente des carences profondes au niveau de l'instruction militaire, technique et morale. En plus de cela, l'armée est hétérogène, composée des éléments issus des différentes ex-fractions militaires et des groupes armés, favorisant le déséquilibre géographique et ethnique des effectifs, principalement au niveau des hommes de tronc. Tout ce qui précède démontre que notre armée présente plusieurs faiblesses à l'aéronde.
Alors, quelle a été la réaction des députés, Marie-Chantal?
En général, à l'hémicycle, les députés ont plutôt enfoncé le clou. Ils ont souligné que la solde est insignifiante et le paiement irrégulier, que la plupart des populations ont une image sombre du militaire qui représente plutôt une source d'insécurité au lieu de les sécuriser. Certains députés ont déclaré que l'armée compte plus des officiers que des hommes de troupes, que la corruption et la mauvaise gestion a gangréné l'armée. Et surtout, il y a un manque criant de patriotisme.
Alors, dernière question, Marie-Chantal. Cette réforme de l'armée prendra finalement combien de temps?
Pour le ministre Mwando Simba, la réforme des forces armées qui passe à travers des lois reste la seule issue. Une réforme qui devrait s'étendre sur près de 10 ans avec 3 grandes phases, celle de la préparation, la montée en puissance des forces armées, enfin pour finir par la mise en place d'une armée dissuasive. À la fin de la phase des réformes des forces armées, ils compteront plus 76 généraux, plus au moins 2516 officiers supérieurs. Une réforme qui passe par le recrutement, la formation, le recyclage, l'équipement, l'encadrement et la mise en retraite honorable des éléments des forces armées. Donc il faut des lois, d'une loi d'abord de programmation militaire qui demande des gros moyens. Il faut savoir à l'héros que réforme égale moyens financiers. L'adoption d'une loi, ensuite sa promulgation est une chose, tandis que son application en est une autre. La facture de cette réforme sera sûrement très très salée, donc des centaines de milliers de dollars.
Merci Marie-Chantal Lumba. Honorable Mohamed Boulé, vous êtes député national MLC et rapporteur de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes général à la retraite et ancien vice-ministre de la Défense. Juste votre commentaire sur les grandes lignes de ce projet de loi.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois avouer que ce projet de loi était attendu depuis très longtemps. parce que nous disons qu'il faut nécessairement avoir un arsenal juridique qui nous permette d'aller de l'avant. L'histoire de nos forces armées ne date pas d'aujourd'hui. Si nous devons aller à l'époque très ancienne du Congo belge, c'est depuis 1883 que l'initiative a été prise par les colonisateurs pour pouvoir monter une armée composée essentiellement de volontaires de ce qu'on disait de la côte engagée, et parmi lesquels certains pays africains que je ne vais pas me permettre de continuer de temps imparti. Mais dès lors qu'il y a eu ces élections qui ont abouti à ce que la Troisième République naisse, et au regard de la constitution du 18 février 2006, il était tout à fait normal que ces réformes poussent, donc que des initiatives viennent soit de la part du gouvernement, comme c'est le cas maintenant, ou de la part de chaque député et sénateur en qui revient l'initiative de loi. Ce projet de loi, nous avons estimé recevable parce que, à part quelques petites faiblesses ici et là, c'est à nous, l'Assemblée nationale, de pouvoir nous approprier de cette loi pour l'améliorer, pour la rendre plus impersonnelle et permettre que nous ayons une montée qui puisse répondre à une armée que nous voulons républicaine et que nous voulons apolitique.
Ben, merci. Merci, permettez-moi de vous arrêter à ce niveau-là. Vous êtes avec nous tout au long de l'émission. Le temps de donner la parole à l'honorable Gaston Moussemena. Vous êtes député national PPRD. Il s'agit de doter l'armée d'un arsenal juridique, hein, d'après l'honorable Mohamed Boulé. Gaston Moussemena.
Oui, je crois que le problème de l'armée concerne toutes les composantes politiques au niveau de l'Assemblée, parce qu'à ce niveau-là, j'aimerais déjà préciser que l'armée n'a pas de couleurs. Vous avez compris, quand l'honorable Boulay vous parlait, il a fait allusion au diagnostic clair présenté par le ministre de la Défense. Le diagnostic remonte de toute l'autorité civile que notre pays a connu avec les différents groupes armés rebelles qu'il faudra maintenant donner, doter d'un esprit républicain. Donc vous comprenez que de là où nous venons, et il y a eu beaucoup de problèmes. Maintenant, nous devons nous mettre ensemble pour revoir la stratégie de réformer notre armée de manière à la rendre vraiment républicaine. Voilà pourquoi le ministre, lorsqu'il a parlé, c'était presque tout le monde qui était unanime avec lui que notre pays ne mérite plus d'être traité comme il était avant. Nous devons tout faire pour avoir une armée dissuasive, une armée qui respecte la grandeur même de notre pays. Mais malheureusement, notre armée actuelle continue à égorger des tares de toutes les combinaisons, de toutes, comment je peux appeler ça, les intégrations qu'il a dû connaître pendant une certaine période. Et pour cela, aujourd'hui, nous devons avoir des critères clairs pour les recrutements. Nous devons donner des moyens importants pour la formation de nos dignes fils qui acceptent d'aller à l'armée. Nous devons leur donner des moyens importants, les équipements compétitifs par rapport à ce qui se passe ailleurs. Voilà un peu ce que l'arsenal juridique présenté par le ministre, et je crois que vous avez senti auprès de notre collègue Boulé, qui est un ancien de l'armée et qui est de l'opposition, que tout le monde était d'accord avec le ministre. Je crois que le pays mérite d'avoir une armée digne. Nous devons tous nous mettre ensemble et donner tous les moyens nécessaires.
Voilà.
À partir du recrutement, à partir de la formation, à partir de l'équipement, et chaque fois assurer un recyclage régulier.
Merci.
Pour le mettre à niveau, et ceux qui ont atteint l'âge de raccorder une retraite digne.
Merci.
Pour que les jeunes qui voudront bien intégrer l'armée puissent faire ça sans problème.
Voilà, nous allons dans le deuxième temps revenir sur le diagnostic de l'armée. Mais en attendant, professeur Bob Kabamba, vous êtes enseignant à l'université de Liège en Belgique et directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Vous avez aussi suivi les grandes lignes de ce projet de loi salué par les députés nationaux. Finalement, ce projet de loi ne vient-il pas en retard?
Ben, tout à fait, j'allais le souligner effectivement, parce que je pense que ça vient en retard. Vous savez bien que tout le processus par rapport à la question de sécurité a commencé déjà dans les années 2000, donc juste après l'arrivée en 2001 du président Kabila, qui a mis en place effectivement une loi qui a essayé de réorganiser donc les forces armées de la République démocratique du Congo et RDC, et ensuite la période de transition, etc., etc. On peut penser effectivement que ça vient un peu tard, et ça vient aussi un peu tard du fait qu'il n'y a pas eu vraiment de volonté politique claire pour essayer d'arriver à avoir une véritable armée avec une ligne claire, bien définie. Et alors, sur ça aussi, on ne retourne pas effectivement de l'arsenal juridique. Oui, l'arsenal juridique, oui. Mais en préalablement, par rapport à cet arsenal juridique, il aurait bien fallu quand même faire un audit beaucoup plus global, un audit beaucoup plus complet, c'est-à-dire pour essayer de voir l'état dans lequel se trouve l'armée actuellement, pas uniquement des grands constats, c'est-à-dire aussi, quand on dit de audit, ça veut dire aussi dégager les responsabilités des uns et des autres dans l'état actuel des choses. Cela voudrait être prêt à préalable pour permettre justement à ce que l'on va faire, ce que l'on va réformer, pour qu'on ne reprenne pas, par exemple, dans l'armée, des gens qui ont déjà été impliqués dans toute une série de dossiers pour lesquels ils ne seront certainement pas cadrés avec la nouvelle politique que l'on veut impulser. Donc, maintenant, je pense qu'il aurait été très clair pour le ministre de la Défense, en fait, mettant de pouvoir faire un constat clair avec un audit, en disant de manière très claire par rapport aux forces armées, ceci, par rapport aux forces terrestres, par rapport aux forces aériennes, par rapport aux forces navales, etc., et de dégager les responsabilités des uns et des autres, et de recommencer même tout un processus de reconstruction et de réforme de l'armée avec de nouvelles bases, avec de nouvelles personnes, parce que n'oubliez pas, nous sommes en Afrique, ça veut dire, lorsqu'on parle de structure, on ne parle pas que de structure et de institutions, mais il y a aussi des hommes. Et c'est ce point-là qui est important pour pouvoir réformer tous les secteurs de l'armée. Ce sont ces hommes-là qu'il faut changer, et pas seulement avoir un arsenal juridique.
Honorable Mohamed Boulé, venez de suivre le professeur Bob Kabamba, il dit qu'il aurait dû y avoir un audit un peu plus complet en établissant les responsabilités. Qu'est-ce que vous en dites?
Je suis complètement d'accord avec le professeur parce qu'en son temps, l'Assemblée nationale a initié des missions pour faire l'état des lieux des forces armées, des services de sécurité, notamment l'ANR, la DGM et la police nationale congolaise, mais ces missions-là ont été mises en vie. Je suis parfaitement d'accord avec lui en tant à ce qui concerne la qualification. Mais le ministre l'a dit, qu'il venait de déposer aussi, certains de ces problèmes-là, ces préoccupations, trouveront certainement leur réponse dans les statuts généraux des forces armées. Parce qu'il faut dresser une monographie d'emploi bien précise, donc bien précise pour permettre, parce qu'à une fonction donnée, il faut une qualification pour pouvoir remplir cela. Et par voie de conséquence, il faut les grades. Donc, toutes ces questions, en termes de recrutement, en termes de retraite, en termes de toutes les études, tout ça, seront réglées par le statut général des forces armées, et qui, du reste, le ministre l'a dit, est déjà déposé au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, et que, incessamment, le bureau pourra certainement l'intégrer dans notre tout ça. Et les réformes aussi, il faut consacrer des moyens colossaux, comme l'a dit le journaliste tout à l'heure. Là.
Honorable Mohamed Boulé, avant d'atteindre les réformes, hein, permettez-nous de voir un peu le diagnostic de l'armée. Le ministre Mwando Simba a relevé quatre grands points dans le diagnostic, notamment la configuration de l'armée ainsi que le vieillissement du personnel et les carences profondes dans l'instruction. D'abord à ce niveau-là.
Oui. Tout à fait d'accord. Ben, je dois avouer qu'il n'est pas normal d'avoir dans une armée des personnes de troisième âge. Je sais de quoi je parle parce qu'il y a des militaires qui attendent leur retraite depuis la deuxième République. En 85, il y a eu des retraites. Et ces militaires-là sont là. Ils attendent que leur allocation de fin de carrière leur soit versée et qu'ils puissent les uns et les autres être rapatriés dans leur milieu où ils voudraient se réinsérer. Mais ce n'est pas arrivé. Avec toutes les guerres qu'il y a eu ici, il y a d'autres qui ont réintégré. Les effectifs, ça pose des problèmes. Or, si nous avons une bonne administration, pour avoir une bonne administration, il faut former. Et dans l'entretemps, il y a des écoles destinées à former ces administratifs-là. Est-ce que, pour le moment, il faut d'abord désengorger, il faut d'abord, de manière honorable, remercier tous ceux qui ont consacré leur temps depuis la force publique, l'armée nationale congolaise, les forces armées congolaises, les forces armées aïroises et toujours les forces armées de la République démocratique du Congo, ceux qui ont atteint l'âge pour prendre leur retraite, ils doivent partir. Mais ceux qui ont commis des crimes, que la justice s'occupe d'eux, et ceux qui viennent à l'armée
on ne peut pas être venu à l'armée à un âge très avancé des 30 et 40 ans. Mais toutes ces questions-là seront réglées par le statut. Mais il est évident. Il est évident parce que nous disons, je suis intervenu pour dire au ministre de la Défense nationale, qu'a-t-il fait des données récoltées par la Société militaire d'intégration? Parce qu'avec ces données-là, on s'est dégagé aujourd'hui province par province, en descendant même territoire par territoire, les origines de chacun des éléments actuellement recensés. Ça, c'est faisable. Pour connaître également, dans les différentes catégories, les militaires de rang, les sous-officiers, les officiers subalternes, les officiers supérieurs, qui ont déjà atteint l'âge pour être, et le travail serait facilité.
Merci.
Mais la balle était du côté du gouvernement pour pouvoir se saisir et alors exploiter ces données-là pour pouvoir dégager et dire si on a, le ministre l'a donné à titre indicatif les 76 généraux.
Merci.
Ce n'est pas un ordre, c'est parce qu'il s'appuie de quelque part sur la monographie d'emploi parce qu'on ne peut pas avoir une pléthore de généraux ou d'officiers supérieurs alors que les unités, les gabarits des forces armées n'est pas encore déterminé. Je pense que dans le programme, il a prévu trois étapes, laissons-le et tout ça, mais il faut nous dire, c'est à eux de nous apporter aussi la loi de programmation militaire, parce qu'avec le budget ordinaire, il ne peut rien répondre pour atteindre les objectifs fixés quant à ce qui concerne les équipements qui demandent des gros moyens.
Merci, honorable Gaston Moussenena. Toujours dans le diagnostic, hein, en revenant sur la configuration de l'armée, une armée composite, a dit le ministre, composée des anciens ex-FAS, ex-NLC, ex-RCD, ex-groupes armés, et cela pose jusqu'à aujourd'hui un très sérieux problème hein, au sujet de l'effectif même de l'armée.
Oui, monsieur le journaliste, j'essaie de comprendre un peu la préoccupation de mon ami, mon frère, qui a parlé un peu avant le général Boulay. Je comprends sa préoccupation, je suis dans le sens du général, je veux faire un diagnostic, je ne sais de quelle manière. Or, je vous ai dit ici que notre ministre l'a fait de manière claire. Mais quand il parle de la force de la volonté politique nécessaire, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais j'aimerais bien lui dire que notre pays vient de connaître une autre histoire, l'histoire des guerres. J'aimerais que tout le monde comprenne que, contrairement à ce qu'il dit, il y a plutôt déjà une plus grande volonté politique, parce que cette volonté politique tient compte de la réalité de notre pays. La réalité de notre pays, c'est quoi? C'est qu'il fallait qu'on arrive à la paix. Et pour y arriver, monsieur le journaliste, il fallait passer par plusieurs compromis pour que tous ces différents groupes armés, ce groupe rebelle, qui avait des généraux, je ne sais pas leur nombre, quel que soit l'âge, il y avait des enfants de 10-15 ans, il y avait des généraux de 10 ans, 15 ans, des généraux de 60 ans, de 70 ans. C'est la réalité de notre pays. Comme il, avec la volonté politique au niveau de notre pays, il fallait arriver à la paix, nous avons accepté beaucoup de formalités d'intégration qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons au sein de notre armée une catégorie déjà hors porte, ou je dirais hors norme. Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'arsenal juridique est salué par tous les députés et par l'ensemble de la population. Parce que comme mon collègue Boulay vous l'a dit, au niveau du statut général des forces armées, il y aura mis là des critères clairs, des critères classiques qui vont nous permettre d'écarter ce qui n'en répond plus. Nous venons de quelque part, je crois que nous devons être honnêtes pour ne pas seulement jeter de cailloux sur notre propre histoire. Il était difficile, je dois vous le dire, d'arriver à la paix si on était bien fort, par exemple, les Maïmaï. Les Maïmaï, ils n'ont pas suivi le cursus normal de l'armée. Il y avait de petits chers, de vieillards, de jeunes enfants qui avaient déjà dépassé l'âge, qui avaient une responsabilité énorme à ce niveau-là. La première chose, la volonté politique a voulu d'abord qu'on les intègre et que maintenant on fixe des critères à partir de la trame juridique que notre ministre commence à lancer pour que nous arrivions sur base de critères objectifs à éliminer les gens qui ne répondent plus aux critères. Je vois que tout ça, le cas de notre politique, à mon avis, qui commence peut-être tardivement, mais on ne pouvait pas faire autrement il y a 3 ans, il y a 4 ans, parce que ça allait nous remettre encore à zéro. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce stade.
Professeur Bob Kavamba, en plus des éléments du diagnostic que j'ai énuméré, le ministre a cité l'absence d'une politique claire et ordonnée d'acquisition, de gestion et de maintenance du matériel, ainsi que l'organisation territoriale calquée sur la subdivision politico-administrative.
Oui, donc ici, donc, je vous remercie pour votre question, parce que normalement, les honorables, quand j'ai parlé d'audit, il faut très bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de faire un état des lieux clair, pas seulement des principes généraux, c'est-à-dire d'arriver à avoir de manière précise, par exemple, une région militaire X, 4e, 5e ou 6e région militaire. Cette région militaire, dans l'état actuel, elle a combien d'effectifs? Elle a combien de gens formés? Elle a combien de gens intégrés? Elle a combien de gens brassés? Elle a combien de gens qui sont partis? Cette région militaire, elle a reçu combien de munitions? Elle a reçu combien d'armes? Elle a reçu ceci, etc., etc. Où c'est parti, etc. Donc c'est d'avoir ça et de pouvoir assainir. Et en assainissant avant d'avoir le cadre, ça facilite beaucoup plus les choses. Puisque maintenant qu'on va voir l'arsenal juridique, mais on a toujours des hommes qui sont en place actuellement. Et ces hommes qui sont en place actuellement, si ces hommes-là ne conviennent pas par rapport à l'arsenal juridique que l'on met en place maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc c'est cette question-là que je voulais insister. Et ça revient aussi par rapport à tout ce qu'on parle du matériel, de la gestion linéaire, qui ne répond pas à un objectif. C'est de manière très claire, c'est que vous venez de confirmer par rapport à ce que j'appelle une volonté politique claire, avec une vision et une stratégie de manière bien concertée au niveau de l'armée. C'est lié au fait que l'armée congolaise, elle est constituée, elle n'est pas une armée unifiée, elle est constituée de corps qui ne s'obéissent pas entre eux, et des fois qui peut arriver d'avoir des heurts entre les différents corps. Et le tout de pouvoir arriver à refaire ce corps qui est composite en un seul corps, il est importantissime justement de pouvoir déjà savoir comment les écarter ceux qui ne doivent pas être dans l'armée, et en fonction de ce que l'on doit écarter, et comment alors à ce moment-là recruter par rapport aux critères que les honorables sont en train de définir. C'est pour ça que je plaide pour ma part en disant, lorsque l'on fait la réforme de la force de sécurité, qu'il est important de pouvoir avoir ce constat avec des éléments très clairs, et avec même l'arsenal militaire, juridique, et même avec tout ce qui est comme armement, etc.
Professeur, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent et qui nous écrivent. C'est le cas du professeur Vianney d'Ouvira au Sud Kivu qui dit la réforme de l'armée doit être la priorité, car sans une armée solide, la stabilité sociale et la sécurité du peuple congolais ne peuvent s'améliorer. Mukamba Kisembe de Kinshasa qui dit pour lui, il n'y a pas la volonté politique de dirigeants pour parvenir à concrétiser cette réforme. Ils sont experts en proposition de loi, mais incapables dans la mise en pratique. Rien ne sera fait à part ce texte-là. Professeur Bob Kavamba.
Là, effectivement, on va toucher l'autre problème qui va se passer, c'est-à-dire à ce moment-là, lorsque l'on a l'arsenal, il faut compléter l'arsenal par d'autres aussi, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une loi pour penser que tous les problèmes vont être résolus. Il y a toute une série d'autres problèmes. Le ministre, quand vous avez fait l'état des lieux, effectivement, de ce que le ministre a dit, de manière très claire, il a parlé, par exemple, de la formation. C'est-à-dire qu'on peut avoir la loi, et que si on n'a pas toute une série d'autres mécanismes tout autour qui pourraient accompagner la réforme et la reconstruction de cette nouvelle armée, je crains fort que l'on risque de se retrouver à la case départ. C'est-à-dire que l'on va avoir un arsenal où, comme vous l'avez dit, on parle de dépenses généraux. Mais pour avoir un général doit suivre tout un cursus qui est bien défini dans tous les cours militaires et dans toutes les structures des armées du monde. Mais lorsque l'on n'a pas ce mécanisme, lorsqu'on n'a pas cette évolution qui doit être un général, mais on sera obligé de reprendre un général qui ne va pas nécessairement répondre aux différents objectifs, puisque ce général ne sera pas formé, n'aura pas été à l'école de guerre, n'aura pas fait ceci, n'aura pas fait cette preuve dans toute une série de manœuvres, etc., etc. Donc on risque d'avoir un général qui n'est pas formé. Et donc c'est toute cette question-là qui, à mon sens, les auditeurs ont tout à fait raison de pouvoir mettre le doigt là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas uniquement d'avoir une loi, mais il faut aussi avoir les moyens de la politique que l'on essaye de mettre en œuvre. Et là, vraiment, c'est une autre question, et c'est là aussi qu'intervient de nouveau la question de la volonté politique claire, avec des moyens qui va avec une politique de réforme.
Honorable Mohamed Boulé, il y a Hilaire Aguenonga de Bounia en province orientale qui dit « Comment réformer l'armée sans la réunifier et caserner les militaires ?» Francis Gissot de Goma, au Nord Kivu, qui dit « Le plan présenté par le ministre de la Défense étant sur 10 ans, la durée est longue alors que l'urgence s'impose vraiment. »
Oui, je comprends parfaitement sa préoccupation. Je voudrais préciser et recadrer le débat. Nous venons d'une étape de la transition. Pendant la transition, il y avait des missions spécifiques, tel que voulu par l'accord global et inclusif, qui a fixé les critères d'intégration. Ça, nous n'y revenons pas. Et là, la communauté internationale nous a conduit dans ces réformes-là, parce qu'en ce qui concerne la démobilisation, désarmement et réinsertion, il y a eu une enveloppe de 200 millions de dollars. Et en ce moment-là, pendant la transition, on n'a pas parachevé l'intégration de l'armée. Et donc, les critères qui étaient soit, d'abord, les enfants soldats, c'était un critère essentiel pour que les enfants soldats soient totalement démobilisés. Les personnes atteintes par l'âge également, et les volontaires à la retraite. Tous ces critères-là, ces critères ont été bien précis dans le cadre de l'intégration de l'armée. Maintenant que nous sommes de plein pied, 3 ans, de plein pied, disons, 3 ans d'ici là, dans la Troisième République, il est tout à fait normal qu'en complément de ce que la Constitution a prévu, que ces réformes interviennent, je l'ai souligné. Il est naturellement normal que l'auditeur qui a posé ces questions-là s'en préoccupe. Moi-même, je dis, pour le moment, il suffit parce qu'il faut de gros moyens. Tenez, en ce qui concerne les logements, il faut mettre les militaires dans les conditions de vie normales pour lui permettre de faire, de remplir ses missions. En termes de logements, nous sommes en déficit depuis lors. Jusqu'à ce jour, le nombre de camps que nous avons ne permettent pas, encore moins, de loger plus de 600, de 60 000 militaires. Je sais de quoi je parle. Il est tout à fait normal quand on prévoit, on projette de monter en puissance une armée, que nous voulons républicaine, que nous voulons apolitique, il faut prévoir aussi comment mettre en garnison ce militaire-là pour pouvoir se permettre de contrôler leur discipline. Et aussi en ce qui concerne les matériels. Et ces réformes-là exigent aussi qu'au niveau de l'animateur, qu'il y a un leadership exemplaire, je souligne le mot, un leadership exemplaire pour la gestion des ressources humaines et du matériel.
Merci.
Le matériel coûte assez cher. Et non, 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 cher. Mais avec ça, on ne peut pas piger dans le budget ordinaire pour pouvoir équiper l'armée et faire ceci, tout ça. Il y a des exercices, il y a des choses qui doivent se faire.
Merci.
Je vais donner un exemple banal. Une petite balle là d'une arme de guerre. Mais c'est pas moyen de voir. Lorsque vous voulez avoir une armée bien entraînée, il y a des exercices de tir à faire à balles réelles.
On aura le moment à vous.
Pourquoi il faut un leadership pour pouvoir donc accompagner cela et espérer atteindre dans les 10 ans tout ça. Les réformes dans 10 ans ne sont pas trop.
Parce
engagés dans ces réformes-là et nous pensons que si nous avons commencé, il faut poursuivre et arriver au moins à faire quelque chose pour notre pays. On en a besoin.
Merci, honorable Gaston Moussemena. Il y a Ramazan Moussouchi de Kalemi au Katanga qui dit « Le projet de loi du ministre de la Défense doit d'abord mettre l'accent sur la solde des militaires afin de leur garantir les meilleures conditions socio-économiques. » Richard Mumbere de Butembo, Nord Kivu, il est vrai que notre armée a un besoin énorme de réformes. Notre gouvernement devrait d'abord entretenir les forces armées déjà démobilisées, car ceci constitue un danger permanent pour la population.
Bien. Je crois que tout le monde, comme j'étais en train de vouloir vous démontrer, à partir de là où nous venons, nous connaissons le méfait que la population a commis à cause de l'armée. Et vous comprenez que pour la population, souvent, il est compris que l'absence d'un solde digne est à la base de ses comportements. Donc, je comprends la préoccupation de notre auditeur qui nous suit très, très attentivement. Et je pense qu'ici, je vais revenir à ce que d'aucuns n'arrivent pas à croire, c'est-à-dire la volonté politique qui y est réellement. Parce que quand nous parlons de la réforme de l'armée, si on regarde ce diagnostic, si on regarde cet état de lieu, que nous vivons tous. Nous savons qu'il y a des problèmes au niveau des secteurs. Voilà pourquoi la volonté politique actuelle veut doter cette armée, cette institution d'un arsenal juridique, qui est d'abord le premier actif. C'est-à-dire que c'est sur base de cet arsenal que le reste va suivre, monsieur le journaliste. Voilà pourquoi j'insiste pour rappeler à tout le monde qu'une réforme, je vais aller rapidement, une réforme c'est un processus. Ça se fera dans les temps, et les ministres ont parlé de 10 ans. Mais je sais, en tant que citoyen congolais, que nous connaissons beaucoup de souffrances à cause de nos frères qui sont au niveau de l'armée. Voilà pourquoi toutes ces personnes n'arrivent même pas à croire. Mais je les invite à donner avoir un peu de l'espoir à ce que la volonté politique est en train de faire, parce que, après la scène juridique, il y en a un peu de moyens. Il est vrai que nous ne pouvons pas soustraire l'armée de notre corps, par exemple les fonctionnaires. Le défi de notre pays ne concerne pas juste l'armée, ça concerne tout le monde, mais l'armée est quand même un corps un peu spécial. Il faut lui donner beaucoup plus d'attention, parce que la stabilité, la paix, la quiétude, c'est la partie dont nous comprenons la préoccupation de toute la population qui voudrait que les choses s'arrangent très vite au niveau de l'armée. Mais je crois que c'est cette volonté politique qui est, parce que en faisant tout pour doter le pays d'un national juridique, je crois que, comme tout le monde est conscient, nous allons nous y mettre tous pour que les moyens suivent. Et là où il n'y a pas de moyens, nous allons demander à notre gouvernement de se battre pour la reprise de la coopération. Vous vous souvenez que Mme Hillary Clinton, lorsqu'elle est arrivée, elle avait déjà annoncé une reprise de coopération militaire avec les États-Unis. Et je crois que le gouvernement va se dire la parole au bon pour que nous allions de l'avant dans le cadre de la coopération, préparer la coopération avec Israël, par exemple, avec la Belgique, avec la France, pour combler le déficit que nous n'avons pas. Je ne sais pas qu'au niveau de notre gouvernement, nous n'avons pas assez de moyens. C'est un problème dont tout le monde a pleinement conscience. Et je crois que nous devons.
On aura le cinéma.
Je vous suis.
Excusez-moi de vous arrêter là. Vous venez de parler de la coopération internationale, mais oui. Il y a quand même l'Union européenne qui a beaucoup contribué à la réforme de l'armée, du secteur de l'armée en RDC à travers le SEC, d'ailleurs, dont le mandat vient d'être renouvelé au 30 septembre 2010. Comment vous évaluez-vous l'impact ou l'apport de le SEC dans la réforme de l'armée? Très brièvement, je vous en prie.
D'accord. Tout ce que je peux vous dire, que nous sommes nous sommes déjà accompagnés par ces différentes structures de l'Union européenne qui nous aident, mais ici j'aimerais vraiment revenir à ce que tout le monde est en train de dire. Nous parlons le même langage de là où nous venons. C'était n'importe qui se retrouvait n'importe où. Au fond, quel que soit le moyen mis à notre disposition, il y en avait qui n'avaient aucune notion de gestion, qui cela a fait que tous ces moyens ont été volatilisés, au point où on n'est pas arrivé au résultat concret. Voilà pourquoi le professeur insiste aussi nous tous, j'essaie de le comprendre.
Merci.
Mais il ne faudrait pas qu'il nous dise de là où nous venons, et vous savez que les amis de l'Union européenne ont renouvelé même leur engagement vis-à-vis du fait qu'ils savent que nous avions des difficultés, ils ne peuvent pas nous abandonner maintenant, ils ont décidé de continuer à nous accompagner.
Merci.
Et nous attendaient la semaine juridique dont nous sommes en train de faire allusion.
Merci honorable, on vous a compris, l'arsenal juridique a été mis sur pied. Professeur Bob Kabamba, je reviens à vous, l'honorable Moussemé n'a pas donné une réponse claire. Quelle évaluation, par exemple, vous faites de l'apport de l'ESSEC dans le secteur de la réforme de l'armée?
Merci pour la question qui va me permettre de pouvoir effectivement répondre à toute une série de questions. C'est-à-dire que lorsque l'on essaye de parler justement que la coopération internationale intervient beaucoup pour la réforme de l'armée, notamment le projet ESSEC, mais il faut bien se rendre compte que le projet ESSEC tel qu'il est défini ne va pas remplacer les Congolais dans ce qui est leur responsabilité pour la mise en place d'une armée digne de ce nom. ESSEC ne va pas reprendre la place du ministre de la Défense, le fait de reprendre la place des différents généraux, etc., des différentes politiques, pour pouvoir avoir une politique de réforme du secteur de la sécurité à la place des Congolais. C'est d'abord, dans un premier temps, les Congolais eux-mêmes. Alors, lorsqu'on essaie de faire une évaluation par rapport au projet SEC, donc notamment une de ces dimensions qui a été la paye donc, de la solde des militaires, dont les auditeurs a payé, mais SEC a eu beaucoup de difficultés à pouvoir mettre en place un processus de pouvoir séparer la chaîne de commandement de la chaîne des paiements. Il a fallu attendre plusieurs années pour que on puisse arriver à avoir vraiment cette distinction claire entre la chaîne de commandement et la chaîne de paiement. C'était pour essayer justement de sécuriser autant que ce peut les militaires quand ils sont sur le terrain, lorsqu'ils sont en opération, mais c'est qu'il y a beaucoup de mal à pouvoir y arriver pour les raisons que je vous l'ai dit. Et pour aussi corroborer par rapport à mon propos, c'est-à-dire lorsque l'on parle effectivement que la volonté politique semble être là maintenant, et vous savez que les élections sont passées en 2006, la mise en place du gouvernement c'était en 2007, et si effectivement la réforme du secteur de la sécurité et de la défense d'armée était vraiment une priorité, une volonté, il y avait une volonté politique claire dès le départ de pouvoir s'y atteler, il y a 3 ans qu'on aurait déjà dû faire tout un plan et avec un arsenal juridique adéquat pour essayer d'arriver à réformer cette armée. Donc voilà les deux points en réponse à votre question sur la coopération internationale et spécifiquement sur le SEC.
Comment concrétiser cette réforme de l'armée congolaise? C'est la deuxième partie de cette émission. Gauthier Mputu, analyste politique, estime que le gouvernement doit disponibiliser beaucoup de moyens financiers pour la réussite de cette réforme de l'armée. Cela, par exemple, en réhabilitant les écoles militaires pour l'instruction et le recyclage des hommes des militaires. On écoute Gauthier Mputu, analyste politique, au téléphone de Kevin Côté.
On doit d'abord réinstaurer la discipline au sein de l'armée. Il faut trouver des mécanismes de comment se recycler cette discipline de l'armée. Justement, après, on pourra parler peut-être des éléments de base qui nécessitent que cette discipline soit réinstaurée. On est en mesure de réhabiliter de centres d'instruction. Alors, tout ça, ça demande un grand budget. Maintenant, l'armée est devenue un cadre le retrouvage en fait de ses pourcomptes, du criminel, du délinquant, tout ce qu'on s'entend aujourd'hui. Réforme de l'armée, c'est pratiquement mettre les militaires dans des circonstances telles que ce besoin soit assuré.
Honorable Mohamed Boulé, vous êtes député national MLC, rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il faut beaucoup d'argent pour la réforme de l'armée, mais d'où viendra cet argent? Avec quel budget?
La solution, la meilleure serait, et elle est prévue d'ailleurs par cette loi, c'est la loi de programmation militaire, qui est une loi pluriannuelle, qui prend en compte les acquisitions de matériel majeur, et l'enveloppe ainsi éclate en plusieurs, échelonnée en plusieurs années. C'est au gouvernement, dans le cadre de sa politique de coopération bilatérale, multilatérale, d'aller toquer ou prendre des engagements, des accords avec certains partenaires pour pouvoir répondre à ses besoins, parce qu'on ne peut pas le faire avec le budget ordinaire. Et en ce qui concerne l'ESSEC, je voudrais quand même placer un point. Les conclusions de l'ESSEC, en ce qui concerne la paix, le fonctionnement, les frais de ménage, les acquisitions, les frais de santé, etc. Ces conclusions, le gouvernement doit s'en approprier pour pouvoir donc refaire l'administration, pour mettre en place une bonne administration. L'activité, par exemple, des pays, c'est une activité banale à l'époque. C'est un sergent qui devait payer les soldes de ses collègues en unité. Ce n'était pas l'affaire des officiers de haut rang pour pouvoir veiller à ceci et tout cela. Et lorsqu'on reçoit un franc, mais cela appelle la justification en ce qui concerne les états de paix, par exemple, pour les militaires, pour qu'on sache que les soldes de l'État ont été payés. Il faut retourner les états de paix émargés signés par chaque militaire, et cela va transiter jusqu'au ministère des Finances via le ministère de la Défense nationale. Il est de même pour les passations la passation des marchés, pour les acquisitions. Mais si cela constitue un tabou, on ne veut pas voir clair, et pourtant il y a des instructions. Chaque année, lorsque le budget est voté,
il y a une instruction permanente en ce qui concerne la gestion des ressources, les recettes et les dépenses. Comment pouvoir justifier ça au niveau du ministère de la Défense? Il y a aussi des instructions du secrétaire général à la Défense qui prévoit comment il faut faire lorsqu'on a reçu un franc pour le ménage, comment on doit juger, en dire combien de temps.
Merci, Laurent.
Et là-dedans, si rien n'est fait, donc c'est l'impunité qui joue à la base de ça, nous disons. Maintenant, il faut, comme je l'ai dit, il faut un leadership exemplaire en ce qui concerne la gestion des ressources et du matériel pour pouvoir espérer atteindre et réaliser les objectifs d'ici l'an 2016.
Merci, honorable Gaston Moussenema. Vous avez parlé hein, tout à l'heure de la coopération internationale. L'honorable Boulé a dit que l'armée va, le gouvernement plutôt, va toquer à des portes pour avoir des partenaires, mais on est dans ce pays, on sait tout le mal que le gouvernement a hein, pour trouver des partenaires extérieurs. On le voit même dans le budget même hein, annuel. Alors, d'où viendra tout cet argent?
Bon, je pense que ce pays, c'est un état tout de même dont le gouvernement doit d'abord chercher à disponibiliser des moyens budgétaires à ce niveau, même si ces moyens sont maigres. C'est bien à ce niveau-là. C'est un pays souverain. Une deuxième chose, les lois-là que nous sommes en train de voter, l'arsenal juridique que nous sommes en train de disponibiliser, il faudra aussi que le gouvernement soit à mesure de les appliquer sans complaisance. Parce que vous suivez l'opinion qu'en train de douter de tout ce qu'on fait. C'est à cause de cela. Il faudrait aussi que le gouvernement soit amené d'appliquer la loi sans complaisance. Et grâce à cela, maintenant, le structure international, mon frère Boulay a parlé de la coopération, on juge aussi à partir de notre gestion. C'est seulement quand ils vont remarquer que nous sommes un peu du sérieux avec le peu dont nous disposons, que maintenant la coopération va agir. Et ici, dans le cadre de la coopération, je veux vous informer qu'il y a beaucoup de structures sur le plan international qui disponibilisent de moyens quand on intègre le combat, la lutte contre le terrorisme international. Vous souvenez que notre zone, la zone centrale, avec tout ce que nous avons connu, il y a déjà été qualifié de génocidaire et donc proche de terroristes. Il faudra que le gouvernement applique la politique d'intégration de certaines structures internationales qui appuient les États dans les cadres de la lutte contre le terrorisme. Je vous dis que nous pourrons trouver des moyens pour réorganiser notre armée, parce que pour lutter contre le terrorisme, il faut avoir des gens capables pour cela. Et avec la coopération, ils viendront pour la formation et ils vont nous donner des matériels nécessaires.
Professeur Bob Kabamba, le ministre a défini l'application de cette réforme en trois phases. La première phase 2009-2011, préparation. Deuxième phase 2012-2016, montée en puissance de nos forces armées. Troisième phase 2017-2018, étape de la dissuasion.
Oui, donc moi je remercie beaucoup pour la question. Et c'est que au niveau des passages avec les préparations, et donc on a deux ans de préparation, il me semble qu'on aurait déjà dû commencer par rapport aux préparations depuis bien avant, donc on est en 2009, et bientôt 2010, et le gouvernement, normalement, cette première législature, ça est censé se terminer en 2011, et normalement, une programmation devait tenir compte, effectivement, des législatures en cours. Notamment, une première phase de préparation, pour ma part, aurait été beaucoup plus pertinente et beaucoup plus adéquate en début de législature, c'est-à-dire qu'on aurait dû le faire en 2007, pour commencer, effectivement, puisque c'est une priorité. Et maintenant, ici, on va retarder une mise en place, parce qu'on n'y avait pas, de nouveau, je répète, il n'y avait pas vraiment de volonté politique d'arriver à réformer cette armée. Et donc, nous allons arriver en 2011, avec un espace de préparation, sans sachant très bien que dans plusieurs parties de la République démocratique du Congo, la sécurité n'y est pas, notamment, je parle surtout par rapport à l'Est, par rapport à l'Ituri, où on a encore des zones d'insécurité liées à la présence de groupes armés étrangers qui continuent à sévir contre les populations civiles. Et donc, on aura encore deux ans de préparation et pas de mise en place d'une véritable armée, malheureusement. Et donc, deuxième phase, 2012 jusqu'à 2016, comme vous l'avez précisé. Et là, de nouveau, avec l'indépendement et la situation ne viendra que dans 10 ans. Et je ne sais pas si, effectivement, tous ceux qui vivent à l'Est et dans certaines parties de la République démocratique du Congo, qui ont déjà du mal à pouvoir être sécurisés, si vraiment la situation, on peut l'attendre donc d'ici 10 ans. Et donc, merci. On pourrait penser que toute une génération pourrait se sacrifier dans certaines zones.
Merci, professeur. C'est cela aussi que nous considérons déjà comme votre conclusion, parce qu'il nous reste juste 45 secondes pour terminer cette émission. Honorable Mohamed Oboulé, votre mot de conclusion également.
Mon mot de conclusion, il faut soutenir certainement ces réformes et aussi poursuivre et se doter certainement de l'expertise. Par exemple, pourquoi ne pas organiser un comité scientifique de défense, parce qu'au niveau de l'université de Kinshasa, nous avons la série UNESCO qui pourrait bien contribuer à améliorer, à apporter un plus pour pouvoir poursuivre ces réformes et certainement pouvoir atteindre l'objectif final en 2018 sommaire.
Merci honorable Gaston Moussemena. Un mot, juste un mot, je vous en prie.
Juste pour soutenir la réforme, car c'est le premier pas pour un avenir meilleur à ce qui concerne l'organisation de nos forces armées.
Merci, merci beaucoup à vous nos invités et à tous les auditeurs qui nous ont écrit. Fin de cette émission mise en onde. Alain Goy, préparation Kevin Couté, Samuel Kachak, réalisation Guy Maté, coordination Martin Sebou-Jangwe, présentation Alain Irung. Restez branchés sur Radio Capitaine.